Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Sophie Malibaud.
Bonjour à tous, merci de rester avec nous pour cette heure d'appel sur l'actualité jusqu'à 9h, temps universel, 11h, heure de Paris. Dans une demi-heure, nous ouvrons le débat sur la situation au Mali, où la mission des Nations Unies a dû établir une zone de sécurité autour de Kidal, tout à fait au nord du pays. Cela à la suite d'une reprise des affrontements la semaine dernière, des accrochages les 15, 16, 17 août qui ont fait plus d'une dizaine de morts, moins de deux mois après la signature de l'accord de paix d'Alger. Le processus de paix s'enraye donc une nouvelle fois. D'un côté, les groupes pro-gouvernementaux et les combattants arabes et touaregs de la CMA, la coordination des mouvements de l'Azawad. De l'autre côté, les deux parties signataires des accords d'Alger il y a deux mois s'accusent mutuellement. Que vous inspirent ces derniers événements? Quel regard portez-vous sur ce regain de tension? Nous attendons donc vos appels à ce sujet au 33 9 693 693 70. Si vous appelez de étranger, 09 693 693 70. Si vous appelez de France, ce sera dans une demi-heure. Mais tout d'abord, comme chaque jour, nous commençons par vos questions sur l'actualité. Question à un journaliste de la rédaction ou un expert de la question contacté pour vous répondre et vous aider à décrypter l'information. Nous commençons ce matin avec une question de Lucien qui nous appelle de Mondoukou, à l'est de la capitale ivoirienne. Bonjour Lucien.
Bonjour Sophie, bonjour RFI Mondoukou, à la Moussa, le grand bassin.
Merci à vous. Vous vous intéressez, Lucien, au cas de l'avocat palestinien Mohamed Alan. Alors cet avocat était en détention en Israël depuis 9 mois. Il y a 2 mois de cela, il a commencé une grève de la faim pour protester contre sa détention qui, il faut le dire, se prolongeait sans jugement. L'élément nouveau dans cette affaire, c'est mercredi dernier, la Cour suprême israélienne qui, au vu de son état de santé, décide de lever l'ordre de détention administrative prononcé donc à l'encontre de Mohamed Alan, son état de santé s'étant dégradé au point que les médecins ont dû le plonger dans un coma artificiel. Surtout, l'examen médical présenté à la cour a montré qu'à cause de la grève de la faim, son cerveau a subi des dommages. Alors c'est notre envoyé spécial permanent à Jérusalem, Muriel Paradon, qui va se charger de répondre à vos questions, Lucien. Que voulez-vous savoir pour commencer?
Ok, en fait, je voulais savoir qui est ce détenu palestinien. Ensuite, pourquoi est-il détenu? Pourquoi la Cour suprême a levé sa détention administrative? Et enfin, cette décision de la Cour suprême abroge-t-elle toutes les poursuites judiciaires qui étaient en cours? Merci.
D'accord. Alors, Muriel Paradon, bonjour.
Bonjour.
Vous nous entendez bien. Vous êtes sur la route, vous êtes notre envoyé spécial permanente à Jérusalem. Pour commencer, dites-nous qui est cet avocat, Mohamed Alan?
Alors effectivement, c'est un avocat de 31 ans, originaire d'un village près de Naplouse, hein, la grande ville du nord de la Cisjordanie. Il soutient les prisonniers palestiniens. Il faut savoir que c'est un dossier très important ici, puisque pratiquement tous les Palestiniens ont été emprisonnés en Israël au moins une fois, ou connaissent une personne de leur entourage qui a été en prison. Aujourd'hui, il serait 5600 dans les geôles israéliennes, dont près de 400 en détention administrative. Alors ce système tant décrié permet d'être emprisonné sans inculpation ni procès pendant 6 mois renouvelables indéfiniment, et c'est précisément ce qui est arrivé à Mohamed Alan. Il a été arrêté en novembre 2014, sans inculpation, sans jugement, et c'est pourquoi il s'est mis en grève de la faim en juin dernier pour protester contre ce système. Officiellement, on l'a donc mis en détention sans motif, mais selon des sources sécuritaires israéliennes, c'est parce qu'il appartiendrait au djihad islamique, une organisation terroriste aux yeux d'Israël.
Et alors ce que nous demande Lucien, c'est pourquoi la Cour suprême a donc décidé de lever sa détention administrative.
Alors, en raison de son état de santé, hein, Mohamed Alan, au bout de 2 mois de grève de la faim, était tombé plusieurs jours dans le coma. Et le jour de l'audience, le 19 août, le jour où ses avocats ont demandé sa libération, un examen médical a été apporté au juge montrant que Mohamed Alan avait subi des dommages au cerveau. Et dans ces conditions, il ne pouvait pas représenter de danger pour Israël. Alors maintenant, l'ordre de détention a été levé. Mohamed Alan reste dans un hôpital israélien où il est soigné. Il a arrêté sa grève de la faim. Il va mieux selon les toutes dernières informations fournies par le ministre de la Santé palestinien, mais son avenir reste incertain.
Mmh. Alors je reviens vers notre auditeur. Lucien, vous aviez une troisième question.
Oui, en fait c'était pour savoir, est-ce que la Cour suprême abroge, cette décision de la Cour suprême va-t-elle abroger toutes les poursuites judiciaires qui étaient en cours?
Oui, et puis alors finalement, est-ce qu'il est vraiment libéré? C'est bien ça la question, hein, Muriel.
Oui, c'est assez fou en fait. Hein. Selon ses avocats, il est libre pour le moment, mais si son état de santé s'améliore, s'il retrouve ses facultés, l'État israélien peut tout à fait décider de le remettre en détention administrative, auquel cas Mohamed Alan ferait sans doute à nouveau appel à la justice pour contrer cette décision. En fait, la seule chose qui déciderait les autorités israéliennes à libérer définitivement Mohamed Alan, c'est qu'il ne se remette pas de sa grève de la faim. J'ai suivi l'audience du 19 août et les représentants de l'État israélien ont dit qu'ils étaient prêts à le libérer seulement si ses dommages au cerveau étaient irréversibles, c'est-à-dire si vraiment il ne représentait aucun danger pour Israël.
Mmh. Mais alors, ce qu'il faut peut-être ajouter, c'est que sa mort en détention, éventuellement, pourrait mettre le feu aux poudres dans les territoires palestiniens. Le djihad islamique a prévenu qu'une telle éventualité ferait voler la trêve mise en place il y a un an, après la guerre qui se déroulait dans la bande de Gaza. C'est peut-être aussi ce qui a pesé dans cette décision de la Cour suprême, Muriel, pour terminer.
Oui, la Cour, en fait, a voulu faire un petit peu plaisir, entre guillemets. Elle a pris une décision un peu de compromis, à la fois ne pas laisser ce prisonnier mourir. Hein. Ça aurait été effectivement très délicat, vu la situation de tension ici. Hein. Pour les Israéliens, les Palestiniens étaient effectivement prêts à se soulever. Son cas a vraiment mobilisé toutes les factions palestiniennes. Et à la fois, il n'est pas complètement libre. Hein. Les autorités israéliennes ont toujours un œil dessus. Mais effectivement, ça aurait pu vraiment mettre le feu au poudre. Tant la situation est tendue en ce moment et tant ce dossier, encore une fois, des détenus palestiniens est une question très importante ici.
Merci beaucoup Muriel. Merci Lucien pour vos questions touchant à la détention administrative de Mohamed Alan en Israël. Alors nous avons maintenant une autre série d'interrogations. Il s'agit cette fois du Burkina Faso avec deux auditeurs en ligne. Le premier nous appelle de Ouagadougou. Noël, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, je rappelle rapidement le contexte. Des élections présidentielles et législatives sont prévues le 11 octobre prochain. Il y a un an, on s'en souvient, le président Blaise Compaoré avait dû céder aux pressions de la rue alors qu'il envisageait de se représenter après avoir présidé 27 ans aux destinées du pays. Les Burkinabés en ont décidé autrement et nous arrivons à la fin d'une année de transition avec ce processus électoral en passe d'arriver à son terme. Alors, à la clôture du dépôt des dossiers en fin de semaine dernière, 22 candidatures étaient enregistrées pour la présidentielle. Pour autant, des incertitudes pèsent encore sur la tenue de ce scrutin. Le CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, c'est-à-dire le parti du président déchu, ne sait pas si son candidat à la présidentielle pourra concourir. Les députés ont voté en avril un nouveau code électoral excluant des scrutins ceux qui avaient soutenu la révision constitutionnelle voulue par M. Compaoré pour rester au pouvoir et qui a finalement provoqué un soulèvement fatal à son régime. La justice ouest-africaine a depuis invalidé cette loi électorale, une décision à laquelle Ouagadougou est tenu de se conformer, mais les autorités n'ont pas encore divulgué la nouvelle mouture du texte. Je reviens vers notre auditeur Noël. Quelle est votre première question?
Oui, effectivement, ma première question c'est de savoir, comme vous l'avez si bien dit, le 11 octobre il y aura les élections couplées législatives et présidentielles, et il y a eu 22 candidats, c'est de savoir de façon pratique quelles sont les conditions réelles alors de participation à ces élections.
Les conditions à la candidature aux élections présidentielles. Yahya Bounani, vous êtes en ligne pour répondre à Noël.
Oui, bonjour.
Bonjour,
Noël,
bonjour à tous. Yahya Bounani, notre correspondant au Burkina Faso, en ligne de Ouagadougou. Quels sont donc les critères à remplir?
Alors, pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut être burkinabé de naissance et né de parents eux-mêmes burkinabés, être âgé de 35 ans révolu à la date du dépôt de la candidature et réunir toutes les conditions requises par la loi. Et la loi ici, c'est le code électoral. Alors, sont inéligibles les individus privés par décision judiciaire de leur droit d'éligibilité en application des lois en vigueur, les personnes placées sous assistance judiciaire et les individus condamnés pour fraude électorale.
Vous avez deux autres questions, Lucien, portant justement sur ceux qui étaient aux affaires du temps de Blaise Compaoré.
Lucien, oui. Monsieur Noël.
Oui, excusez-moi, Noël, je suis désolée. Quelles sont vos deux autres questions, Noël, pardon pour cette erreur.
Voilà, ma seconde question, c'est de savoir, pour le candidat de l'ex-majorité Edu Kombogo qui se présente,
oui.
Est-ce que réellement il peut réellement se présenter? Si oui, et quelles sont ses chances de succès à ces élections?
Yaya Boudani.
Alors, difficile de répondre à cette question, partant de ce que nous venons de dire. Seul le Conseil constitutionnel a le pouvoir d'invalider ou de valider une candidature. Alors, après le verdict de la Cour de la justice de la CEDEAO, le gouvernement avait dit qu'il prend acte et que le président de la transition a dit que le Burkina Faso allait se conformer à cette décision. Mais le nouveau code électoral qui exclut les partisans de l'ancien régime n'a pas été modifié, alors que c'est la seule boussole qui va guider tout le processus électoral. Et ce code étant resté en l'état, seul le juge constitutionnel a le choix. Alors, c'est lui seul qui a le pouvoir de décider de la validité ou de l'invalidité des différentes candidatures. On attend d'ailleurs même ses premières décisions.
Et donc, il ne faut plus s'attendre du tout jusqu'à la tenue des élections à ce qu'il y ait une modification du code, j'imagine.
Non, parce que le processus a été déjà enclenché, donc le processus va se poursuivre avec le code querellé.
Donc, il risque d'y avoir des contradictions?
Bon, là, on attend, parce que comme les décisions du Conseil constitutionnel sont sans recours, donc seul le juge constitutionnel pourra nous dire est-ce qu'il va tenir compte de la décision de la CEDEAO ou il va tenir compte uniquement de ce nouveau code électoral.
Et je vais maintenant me tourner vers un second auditeur, toujours à propos de ces élections au Burkina Faso. C'était Ibrahim, qui souhaite également, lui aussi, vous interroger à propos des candidatures à l'élection du 11 octobre. Ibrahim, bonjour.
Bonjour, madame. Bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Quelle est votre question?
J'ai deux questions concernant les élections au Burkina Faso. La première,
la première pour commencer.
La Cour constitutionnelle a rejeté les recours de la société civile.
Donc ces recours, si vous pouvez nous apporter quelques précisions, ces recours de la société civile qui portaient sur quoi?
Les recours de la société civile qui voulaient invalider le traitement.
D'accord. D'accord. Donc ces recours n'ont pas été retenus. Yaya Boudani, pour quelles raisons?
Alors, les recours des organisations de la société civile ont été rejetés pour la simple raison que certains recours ont été formulés par des organisations, justement. Le recours contre l'éligibilité d'un candidat ou d'un suppléant peut être formé devant le Conseil constitutionnel par un citoyen, alors que les organisations de la société civile n'ont pas la qualité de citoyen. Ce qui a fait que les recours ont été rejetés et il y a certains recours qui ont été déposés de façon prématurée, c'est-à-dire avant même la date de publication des listes par la commission électorale.
Et Ibrahim, vous aviez une seconde question à propos des candidatures.
Oui, la première dame a déposé sa candidature au nom de Mme Sarah Seremé.
Oui.
Une dame qui a lutté vraiment contre le régime Compaoré. Quelles sont ses chances à ces élections de 2015?
Yaya Boudani?
Alors, bon, soulignons déjà qu'il y a trois femmes à avoir déposé leur candidature auprès du Conseil constitutionnel. Sarah Seremé, elle a toutes ses chances parce que ces élections sont vraiment ouvertes à toutes les candidatures et toutes les candidatures se valent. Maintenant, tout va se jouer au niveau des alliances parce que, comme vous le savez, tout comme toutes ces femmes qui sont candidates à ces élections présidentielles, elles doivent beaucoup travailler car les mentalités n'ont pas beaucoup évolué. Les présidents sociaux traditionnels ont longtemps relégué la femme au second plan dans nos contrées. Même au niveau politique, certaines personnes pensent que la femme ne doit pas occuper des postes de responsabilité, même si les femmes prouvent toujours le contraire sur le terrain. Et le combat pour ces candidates-là déjà, c'est de lutter déjà contre ces considérations-là, ces pesanteurs sociales-là. Et je crois qu'elles ont toutes leurs chances. Il suffit qu'elles s'y mettent.
Très bien, merci beaucoup. Merci à vous, les auditeurs. Merci à Yaya Boudani pour ses réponses. Alors, autre sujet, nous changeons de continent, direction l'Amérique latine, pour aborder les relations diplomatiques entre la Bolivie et les États-Unis. La question nous vient d'un auditeur de Nouakchott, en Mauritanie, Sidati. Bonjour.
Bonjour.
Alors, nous avons contacté pour vous répondre Laurent Lacroix, chercheur à l'Institut des hautes études sur l'Amérique latine. Bonjour Laurent Lacroix.
Bonjour.
Donc ce qui nous amène à parler de la Bolivie aujourd'hui, c'est un changement, semble-t-il, de climat dans les relations diplomatiques, des signes qui sont apparus à la mi-août, après 7 années de brouille totale qui ont vu le renvoi de l'ambassadeur américain de La Paz et réciproquement le renvoi du Bolivien de Washington, mais aussi l'expulsion, toujours en 2008, de l'agence antidrogue américaine, puis en 2013, la fermeture de l'USAID, l'agence américaine d'aide au développement. Xidati, je reviens vers vous, quelle est votre question à Monsieur Lacroix?
Merci de m'avoir donné la chance d'intervenir dans votre émission. Donc, sur vos antennes, ce que vous venez de dire, dont on entend parler de cette nouvelle approche bolivienne, donc avec l'invitation du chargé d'affaires américain, pour un rapprochement avec le gouvernement américain. Donc, mes questions sont les suivantes. La première, quel est l'intérêt de la Bolivie pour ce rapprochement?
Oui, on va commencer par là, on verra pour la seconde question. Je vais me tourner tout de suite vers Laurent Lacroix. Quelles sont donc les raisons de cette volonté bolivienne?
Oui, bonjour à tous, bonjour Xidati. Écoutez, il y a un certain nombre d'éléments qui rentrent en jeu dans ce qu'on peut appeler cette recherche de rapprochement, parce qu'il s'agit avant tout, dans un premier temps, de rétablir les relations diplomatiques qui ont été rompues à l'issue des événements que vous avez indiqués en introduction. Alors, les intérêts de la Bolivie, pour faire court, c'est d'abord, je crois, tirer profit du rétablissement des relations entre les États-Unis et Cuba. Cuba étant l'un des pays alliés, principaux alliés de la Bolivie dans le cadre de l'alternative bolivarienne des Amériques, un projet d'intégration régionale alternatif à ce que peut proposer les États-Unis en termes de traité économique bilatéral. Donc ça, c'est le premier intérêt, tirer profit de ce rétablissement entre Cuba et les États-Unis. Le deuxième, je crois, c'est assurer un minimum d'échanges, en tout cas stabiliser les échanges commerciaux avec les États-Unis, qui, il faut rappeler, sont l'un des principaux, voire le principal partenaire commercial de la Bolivie. Mmh. Et puis, il y a un contexte relativement nouveau, c'est que dans sa politique internationale de revendication à l'accès à l'océan Pacifique, c'était une procédure engagée par la Bolivie auprès de la Cour de justice internationale à l'encontre du Chili, le gouvernement bolivien souhaiterait obtenir le soutien des États-Unis, les États-Unis qui sont un des principaux alliés Chili. Donc là, il y a cet enjeu aussi en termes de géopolitique qui est assez fort.
Mmh. Et alors, ça n'est pas fait, c'est un désir, Evo Morales d'ailleurs qui voulait rencontrer le président Obama, il en a émis le vœu en décembre dernier, il n'a pas eu de réponse, donc ça n'est pas gagné. Alors, Xidati, vous avez une seconde question et elle concerne justement la réaction américaine
Oui. Donc ma seconde question, c'était juste pour savoir la cause de la détérioration même de la relation bolivo-américaine. Quelles sont les causes, c'est ça?
Laurent Lacroix, nous n'avons plus beaucoup de temps, mais finalement, quelle est votre réponse?
Bah écoutez, je crois que c'est ce que vous avez dit en introduction, donc ces renvois mutuels d'ambassadeurs, les fermetures d'agences de coopération états-uniennes aux États-Unis. Il y a aussi un élément clé dans la construction future des relations entre les deux pays, c'est la question de la coca et de la lutte contre le narcotrafic. Ça, c'est vraiment un contentieux très fort entre les deux pays qui propose, je dirais, deux politiques complètement différentes. Les États-Unis avec une présence physique des forces armées américaines, en tout cas dans l'encadrement de l'armée bolivienne, et depuis que Evo Morales est arrivé au pouvoir, je dirais qu'on assiste à ce qui est appelé localement une nationalisation de la politique de lutte contre le narcotrafic, c'est-à-dire que la Bolivie refuse toute ingérence des États-Unis dans sa politique de lutte contre le narcotrafic. Il faut rappeler aussi un dernier élément, et ça c'est important,
Evo Morales
est dirigeant des paysans producteurs de coca, et donc c'est vraiment une question clé dans le rétablissement des relations.
D'accord, merci beaucoup, merci à vous Xidati, merci Laurent Lacroix pour les réponses. La première partie d'appel sur l'actualité se termine sur RFI. Dans un instant, on se retrouve pour le débat sur la situation au Mali.
Retrouvez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie après le journal.